Bien, aujourd'hui, on fait un petit retour en arrière, direction novembre 1993. On va décortiquer un communiqué de presse d'Autodesk, annonçant le lancement d'AutoCAD LT. Ça peut paraître vieux, mais c'est assez révélateur.
Ah oui, 1993, c'est une date intéressante. L'écosystème Windows commençait vraiment à prendre son envol.
Exactement. Et on veut comprendre comment Autodesk a joué ses cartes à ce moment-là pour toucher plus de monde.
C'est ça. AutoCAD, c'était le roi de la KO, la conception assistée par ordinateur, mais c'était aussi une forteresse, complexe, chère.
Donc il y avait une demande pour autre chose.
Clairement. Un outil plus simple, plus accessible, surtout avec Windows qui arrivait partout.
Et c'est là que débarque AutoCAD LT, la promesse, puissant, économique et basé sur Windows.
Voilà.
La cible était large, hein. Architectes, designers, ingénieurs même.
Oui, tous ceux qui avaient besoin de manipuler des plans, mais sans forcément toutes les fonctions avancées complexes d'AutoCAD complet.
L'idée, c'était que Windows allait en quelque sorte ouvrir la KO à monsieur et madame tout le monde, enfin professionnellement parlant.
C'est un peu ça. Et économique, ça se traduisait comment ?
Le communiqué parle de 495 $ américains au lancement.
Ah oui, quand même. Comparé à la version complète, c'était très agressif.
Et il y avait même une offre spéciale pour les utilisateurs de Generic CAD, un autre logiciel qu'ils avaient racheté, 129 $.
C'était vraiment pour convertir. Et le fait que ce soit basé sur Windows, ça signifiait une interface plus familière, moins intimidante que les interfaces DOS précédentes, quoi.
Mais au-delà du prix et de Windows, le vrai coup de maître, c'était pas la compatibilité des DWG ?
Ah ça, c'était absolument fondamental. Le format de fichier DWG. Autodesk avait déjà près d'1 million d'utilisateurs AutoCAD à l'époque. Le DWG, c'était le standard de fait dans l'industrie.
Donc garantir que LT puisse lire et écrire ses fichiers sans problème.
C'était vital. Ça voulait dire qu'une entreprise pouvait avoir des postes LT à côté de postes AutoCAD complets et tout le monde pouvait échanger des fichiers sans souci.
Pas de friction.
Zéro friction. Et ça gardait les utilisateurs dans l'écosystème Autodesk. C'était pas juste moins cher, c'était une porte d'entrée ou un complément parfait. Très malin pour contrer la concurrence qui pointait le bout de son nez.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce LT concrètement ? C'était quoi les arguments pour séduire ?
D'abord, l'interface Windows, évidemment. Menu déroulant, icônes. Pour l'époque, c'était une petite révolution en termes d'ergonomie par rapport aux lignes de commande.
Plus intuitif.
Beaucoup plus. Ensuite, il y avait la prise en charge OLE. Object Linking and Embedding.
Ah oui, pour lier les dessins dans d'autres documents, exactement.
Exactement. Mettre un plan AutoCAD LT dans un rapport Word ou une feuille Excel, par exemple. Très pratique.
Et pour le dessin pur ?
Des capacités 2D solides. Le communiqué dit « similaire à AutoCAD Release 12 », qui était la version complète de l'époque. Et il y avait aussi des fonctions 3D de base.
3D de base, ça veut dire quoi exactement ? On pouvait modéliser en 3D ?
Non, pas vraiment, hein, modéliser de A à Z. Il s'agissait plus de pouvoir visualiser des fichiers DWG 3D créés avec la version complète.
D'accord.
On pouvait faire des extrusions simples à partir du 2D, manipuler des lignes en 3D, faire des rendus basiques avec suppression des lignes cachées, de l'ombrage simple.
Suffisant pour comprendre un projet ou faire une petite modif ?
C'est ça. Pas pour de la conception 3D lourde, mais assez pour interagir avec des données 3D, un bon compromis pour le prix et la cible.
Donc ça a vraiment, comme tu disais, un peu démocratisé l'accès. Et en entreprise, ça s'intégrait comment ?
Le communiqué mentionne l'aspect réseau. On imagine bien le truc. Les dessinateurs pros sur AutoCAD complet.
Et les ingénieurs ou les chefs de projet sur LT.
Voilà. Pour consulter, annoter, faire des modifications mineures sur les mêmes fichiers DWG. Ça facilitait la collaboration, ça fluidifiait les échanges.
Et ça tournait sur les machines de l'époque.
Oui, oui. PC 386 ou 486. Avec, attention, 4 mégaoctets de RAM minimum.
Ah oui, 4 mégaoctets. Ça laisse rêveur aujourd'hui.
C'était les standards de l'époque.
Et tu mentionnais que ce n'était pas un produit isolé. Il faisait partie d'une gamme.
Tout à fait. Autodesk construisait une offre étagée. Il y avait AutoSketch pour le dessin très simple, générique CAD comme entrée de gamme.
AutoCAD LT au milieu, sous Windows.
Et AutoCAD Release 12 tout en haut. Une stratégie pour couvrir différents besoins, différents budgets, mais toujours avec le DWG comme colonne vertébrale,
ouais.
Pour assurer la cohérence.
Bien joué. En résumé, ce lancement d'AutoCAD LT en 93, c'était vraiment une étape clé. Une façon pour Autodesk de surfer sur la vague Windows, d'aller chercher de nouveaux clients.
Tout en renforçant son standard DWG.
Et avec un positionnement prix super étudié. Une vraie manœuvre stratégique.
Et juste pour finir sur un fait du communiqué, il rappelait qu'Autodesk était déjà le numéro 1 mondial du logiciel de CAO sur PC. Et ce lancement d'AutoCAD LT, il était prévu d'emblée pour une distribution internationale. Ça montre bien l'ambition qu'il y avait derrière.
Bonjour et bienvenue à nouveau. On continue notre exploration des documents sources. Aujourd'hui, on se penche sur une communication interne d'Autodesk assez clé de fin 93, une vraie correction de cap, on peut dire. On a deux courriels là sous les yeux. Ils sont de Chris Bradshaw, qui était chef de produit marketing à l'époque. C'est adressé aux employés d'Autodesk et ça concerne AutoCAD LT. Le premier date du 11 novembre 1993 et il annonce un changement assez important. Et pas n'importe lequel. C'est assez direct. AutoCAD LT pour Windows, eh ben, il ne supportera pas AutoLisp LT dans sa version finale. En fait, pour être tout à fait précise, il ne supportera aucun AutoLisp du tout. C'est net.
Ah oui, c'est une annonce assez radicale, surtout si on pense à la place d'AutoLisp dans l'écosystème AutoCAD à l'époque.
Exactement. Et ce qui rend ça particulièrement intéressant, c'est le timing. Ce courriel précise qu'un guide de pré-lancement avait été envoyé le 1er novembre, donc juste 10 jours avant.
Aux revendeurs et aux commerciaux.
C'est ça. Et ce guide listait des commandes AutoLisp. Ils appelaient ça AutoLisp LT, une version peut-être allégée, le document ne le dit pas vraiment.
Mmh.
Donc, la décision de tout enlever, elle a été prise après cette communication aux partenaires.
D'accord. Donc, on informe les vendeurs qu'il y a AutoLisp, puis 10 jours après, en interne, on dit finalement non.
Voilà. Bradshaw essaie de rassurer un peu, quand même. Il dit que le reste des informations du guide reste valide et que la date de sortie prévue pour le quatrième trimestre fiscal 94 est maintenue.
Ce timing, franchement, c'est fascinant. Inclure une fonctionnalité dans un guide pour les vendeurs, puis faire machine arrière si vite, ça suggère une décision prise dans l'urgence.
Oui, on sent qu'il y a eu quelque chose.
Peut-être un problème technique de dernière minute. L'intégration d'AutoLisp qui coinçait. Ou alors une réaction très vive du marché ou d'un concurrent.
Une pression externe, oui.
Qui les a forcés à revoir la copie pour positionner LT comme ultra simple. La justification officielle arrivera, mais ce revirement rapide, ça sent les discussions internes un peu tendues, quoi.
Oui, ça sent le branle-bas de combat en coulisses. Et d'ailleurs, le deuxième courriel arrive une semaine plus tard, le 19 novembre 1993. Il semble bien confirmer qu'il fallait clarifier la situation en interne, vu les questions. Bradshaw le redit, noir sur blanc, AutoCAD LT ne supportera pas AutoLisp. C'est très clair cette fois.
Aucune ambiguïté possible, là.
Et c'est là qu'arrive la fameuse justification, officielle. D'après Bradshaw, les clients cibles d'AutoCAD LT, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est un logiciel simple, facile à apprendre, facile à utiliser.
Le mantra du produit light.
Exactement. Et aussi abordable, et surtout 100% compatible avec les fichiers AutoCAD classiques. Une étude de marché, soi-disant récente, aurait montré qu'AutoLisp n'était tout simplement pas un critère important pour ces clients-là.
Bon, c'est l'argument marketing typique pour justifier une version allégée, hein. On se concentre sur le cœur de métier. Le dessin 2D simple, la compatibilité. L'étude de marché, c'est l'alibi parfait, si on veut.
Mais est-ce que ça explique tout? Surtout le timing?
Probablement pas toute l'histoire, non. Comme on disait, un souci technique de dernière minute ou une réaction à la concurrence. Ça expliquerait mieux pourquoi changer après avoir communiqué au revendeur. C'est ça le point un peu sensible.
Oui.
Mais bon, officiellement, la raison donnée, c'est la simplicité pour l'utilisateur. C'est une posture qui se tient, même si le calendrier interroge un peu.
Et donc, pour compenser ce retrait d'AutoLisp, la personnalisation va se faire autrement? Plutôt sur des aspects, disons, plus directs pour l'utilisateur? Modifier les icônes dans les barres d'outils, les menus déroulants?
Oui, des choses plus cosmétiques ou en tout cas moins puissantes.
Et créer des scripts de commande, mais des scripts simples, pas un langage de programmation complet.
Tout à fait. On est loin de la flexibilité d'AutoLisp. Et d'ailleurs, ce courriel du 19 novembre, il détaille aussi comment ils vont communiquer cette décision, la cascade d'informations. D'abord, les développeurs américains, c'était déjà fait apparemment.
D'accord.
Ensuite, les revendeurs américains, puis la presse. Et même une annonce sur CompuServe, le grand forum en ligne de l'époque.
Ah oui, CompuServe, c'était incontournable à ce moment-là.
Et point très important, il insiste lourdement pour que les équipes internationales corrigent toutes les informations précédentes qui auraient pu être données.
On imagine le casse-tête?
Ah oui, gérer cette volte-face auprès des partenaires dans le monde entier, ça a dû être un sacré défi, logistique et relationnel. Il promet d'ailleurs un kit de lancement mis à jour pour les revendeurs pour mi-décembre, pour tout remettre d'équerre officiellement.
Donc si on résume un peu ce passage clé, on a ce revirement stratégique majeur, l'abandon d'AutoLisp dans AutoCAD LT, vraiment juste avant le lancement.
C'est ça.
Une décision qui est justifiée publiquement par la simplicité, les attentes du marché cible, mais dont le timing très serré, il laisse un peu planer le doute sur d'éventuelles autres raisons internes, techniques ou concurrentielles.
Exactement. Et ça nous amène tout droit à la question pour la suite de notre analyse. Que va contenir ce fameux reseller kit de mi-décembre? Est-ce qu'il donnera plus de détails, plus d'explications?
Oui, comment les partenaires vont réagir à ça?
Voilà. Comment les revendeurs, qui avaient eu l'info initiale, vont accueillir ce changement de dernière minute? Les documents suivants nous éclaireront peut-être sur la réception de cette décision sur le terrain, par les partenaires et par le marché.
Parfait. Notre analyse de ces développements internes chez Autodesk et de leurs répercussions se poursuivra donc lors de notre prochaine discussion.
Bienvenue à nouveau. On poursuit aujourd'hui notre exploration de ces documents sur AutoCAD LT. On va finaliser notre analyse de la foire aux questions pour Windows. L'idée, ça reste la même. Vraiment extraire l'essentiel de cette source pour saisir ce que teste logiciel à son lancement. C'est la dernière ligne droite sur ce sujet précis. Alors, prêt ? Allons-y pour les derniers points importants. Un truc qui saute aux yeux dans cette FAQ, ce sont les différences, les grosses différences avec la version complète d'AutoCAD, la Release 12. LT s'était présenté comme prêt à l'emploi, mais bon, il manquait des choses importantes.
Ah oui, clairement.
Pas de vrai 3D, pas d'autoslips, le langage de programmation, pas de support ADS non plus, ce fameux système pour les développeurs tiers, et même pas de pilote SADI direct pour certains traceurs. Pourquoi au juste toutes ces restrictions? Juste pour protéger AutoCAD.
Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est là qu'on voit la stratégie d'Autodesk. En limitant tout ça, ils créent un produit d'appel, mais sans faire de tort à leur version pro, quoi.
D'accord.
Et face à des concurrents comme Generic CAD, AutoCAD LT avait des arguments essentiels. L'interface Windows, bien sûr, mais aussi l'intégration OLE. Tu sais, la possibilité d'intégrer un dessin dans un document Word, par exemple.
Ah oui, pratique, ça.
Voilà. Et puis, la compatibilité des fichiers, c'était rassurant. C'était une porte d'entrée vers l'univers AutoCAD. Surtout qu'il disait clairement pas de générique CAD pour Windows.
Malin.
Le calcul était assez simple en fait. Attirer les utilisateurs de CAD 2D sous DOS vers Windows et vers AutoCAD, mais bon, sans leur donner toutes les fonctionnalités avancées tout de suite.
C'est une approche intéressante, c'est sûr. Mais est-ce que c'est limite je pense surtout à l'absence d'autolisp, qui était quand même super puissant pour automatiser des tâches. Est-ce que ça n'a pas été vu comme un gros frein par les petites boîtes, les indépendants? Le cœur de cible, non?
C'est une très bonne question. Et c'était sans doute le pari d'Autodesk, ça. Ils misaient sur le fait que pour beaucoup d'utilisateurs qui passaient du dessin à la main ou d'un CAD plus simple vers Windows, la facilité d'utilisation et surtout la compatibilité des DWG seraient plus importantes que la programmation avancée ou la 3D complexe.
D'accord.
Pour ces besoins plus poussés, il y avait la Release 12, tout simplement.
Ok, je vois mieux la stratégie. Mais alors, concrètement, si quelqu'un voulait l'acheter fin 93, début 94, ça se présentait comment? Le lancement était prévu pour quand déjà?
Mi-décembre 93 en anglais. D'AutoSketch, 199$.
Ah, intéressant.
Par contre, petit détail intéressant, aux États-Unis et au Canada, ces mises à niveau, c'était direct avec Autodesk. Et au lancement, en tout cas, il n'y avait pas d'offre spéciale pour passer de LT à la Release 12. On sentait qu'il voulait bien séparer les parcours.
Logique. Et la machine qu'il fallait pour faire tourner tout ça? En 93, c'était quoi les standards?
Alors, il fallait un PC 386 ou 86. Et attention, avec un coprocesseur mathématique.
Ah oui, le fameux coprocesseur, indispensable pour les calculs graphiques un peu sérieux à l'époque.
C'est ça. Windows 3.1, 4 mégas de RAM minimum. Mais il recommandait plutôt 8 mégas d'espace disque et un fichier d'échange permanent. Ça tournait sous Windows for Workgroups, sous NT et même sous OS 2 en mode compatibilité.
Pas mal, hein?
Et ça fonctionnait en réseau, mais attention, licence strictement mono-utilisateur par PC. Pas question de lancer deux AutoCAD LT sur la même machine.
D'accord. Mais malgré tout ça, l'argument clé, celui qu'il mettait en avant, c'était la compatibilité DWG, le format d'AutoCAD. Comment ça marchait en pratique si LT était limité en 3D, par exemple?
Eh bien, c'était le point essentiel pour que tout le monde puisse échanger des fichiers. Même un dessin 3D très complexe fait avec AutoCAD Release 12, on pouvait l'ouvrir dans LT.
Ah bon? Sans perte?
Oui. On pouvait le regarder sous tous les angles, utiliser les accrochages aux objets 3D, même ajouter des trucs simples comme des polylines 3D ou des cotes. Et ça, sans abîmer le fichier original.
Pas mal.
Même les Extended Entity Data, ces données personnalisées qu'on pouvait attacher aux objets dans AutoCAD, elles étaient conservées dans le fichier, mais bon, on ne pouvait pas y toucher dans LT.
Ok. Et pour personnaliser un peu l'interface, c'était possible quand même.
Oui, on pouvait faire des scripts, modifier les menus avec des expressions diesel simples, créer des alias de commandes, des bibliothèques de symboles, mais sans Autolisp ni ADS, impossible d'intégrer des applications tierces vraiment complexes. C'était limité.
Et pour les imprimantes, les traceurs, pas de support ADI direct, ça voulait dire quoi concrètement pour l'utilisateur?
Ça voulait dire qu'on dépendait à 100% des pilotes fournis avec Windows. Et ces pilotes, ils n'étaient pas toujours aussi rapides ou optimisés que les pilotes ADI qu'Autodesk développait spécifiquement pour sa version complète.
Surtout pour les gros traceurs, j'imagine.
Exactement, les gros traceurs à plumes, par exemple. Et il n'y avait pas non plus de support pour les digitaliseurs en mode absolu, le MOL mode, tu sais, pour décalquer un plan papier.
D'accord.
Et puis bon, le support technique, c'était 90 jours gratuits par téléphone en Amérique du Nord. Après, fallait payer.
Ok, assez standard pour l'époque, peut-être.
Pour résumer un peu tout ça, cette FAQ nous dépeint AutoCAD LT comme un produit très stratégique, très calculé. Une version allégée, oui, mais faite pour conquérir le marché de la KO2D sous Windows.
Face à la concurrence.
Voilà. Démocratisé par son prix, son interface Windows, familière, mais suffisamment limitée sur les fonctions clés comme la 3D, la programmation, les pilotes matériels, pour ne pas faire d'ombre à AutoCAD Release 12. Et bien sûr, pour inciter les gens à passer à la version supérieure plus tard.
Une stratégie de segmentation assez classique finalement.
Oui, mais plutôt bien exécutée pour l'époque.
Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce document sur AutoCAD LT. Une dernière petite réflexion pour conclure, si on se met à la place d'un pro au 1993. Un architecte, un dessinateur, même un étudiant qui découvre ce logiciel. Comment ce compromis a-t-il été perçu entre l'accessibilité nouvelle, d'un côté, et les limitations bien réelles de l'autre?
C'est ça la question. Est-ce que c'était vu comme une libération, enfin l'AKO abordable sous Windows, ou plutôt comme une version un peu frustrante au rabais?
Ça en dit long sur la lecture du marché par Autodesk à ce moment-là. Bon, voilà qui donne matière à réfléchir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.